devant toi, Seigneur. Je répands mon âme devant toi, Seigneur. Je répands mon âme, ô mon Dieu. Je suis à toi, je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité.
Chers amis auditeurs, bonjour, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage au nom du Seigneur Jésus. Voici l'émission En sa présence du Centre biblique. À la présentation, vous reconnaissez la voix de votre serviteur, Danny Wechai. Nous allons méditer sur le psaume 36 au verset 10e. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Il y a des moments dans nos expériences spirituelles où les conseils et la sympathie de l'homme ou les ordonnances religieuses ne peuvent pas nous aider ni ne parviennent à nous consoler. Pourquoi notre Dieu de grâce le permet-il? Peut-être est-ce parce que nous avons vécu trop de temps sans lui. De manière à nous ramener à lui, il fait donc disparaître tout ce sur quoi nous avons pris l'habitude de nous reposer. Comme Agar et Ismaël, nous acceptons aisément de partir dans le désert tant que nos outres sont pleines d'eau. Mais quand elles sont épuisées, rien ne nous sert à rien si ce n'est, comme on le voit dans ce texte de la Genèse, « Ata el roi ». C'est-à-dire, tu es le Dieu qui me voit. Nous ressemblons au fils prodigue qui s'est contenté de la nourriture des pourceaux et avait oublié la maison de son père. Car auprès de toi est la source de la vie, dit le psalmiste. Auprès de toi, cela signifie que c'est chez Dieu, en lui et avec lui seul qu'est la vie. Pas ailleurs, pas autrement. Rappelons-nous que nous pouvons même transformer nos formes de religion en auge à cochon et en carouge. Ce sont en elles-mêmes des choses bénies, mais si nous les mettons à la place des dieux, elles ne nous sont d'aucune valeur. Tout devient idole dès que cela nous éloigne de Dieu. Israël, le peuple de Dieu, aurait dû s'attacher de tout son cœur à son Seigneur qui le guérissait. Mais au lieu de cela, il en était venu à adorer le serpent d'airain. On voit cela dans le livre de 1 Rois, chapitre 18, au verset 4. Et c'était une chose terrible, parce que là, Israël a versé véritablement dans l'idolâtrie. Le fils prodigue ne fut jamais plus en sécurité que le jour où il fut poussé à revenir vers son père, car il ne pouvait trouver de subsistance nulle autre part. Notre Dieu nous fait la bénédiction d'envoyer une famine dans notre existence pour que nous le cherchions davantage. La meilleure position pour un chrétien consiste à vivre totalement et directement de la grâce de Dieu, à se tenir là où il était au commencement, selon, je me rappelle, ce que disait l'apôtre Paul, hein, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, au verset 10, l'apôtre disait ceci, « Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » Nous possédons toutes choses. Quelle merveilleuse parole! Nous possédons d'abord la vie qui est auprès de Dieu, la vie qui était au commencement auprès du Père, c'est Jésus-Christ. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans sa première épître, au premier chapitre. Il est intéressant de voir comment l'apôtre Paul, de son côté, exhortait Timothée à ordonner aux riches de son temps à ne pas être hautains ni cupides, mais à saisir non pas ce qu'est la vie, mais ce qui est la vie. Je répète, selon le texte, ce qui est la vie. La vie, ce n'est pas une chose, mais une personne. À savoir, Jésus-Christ. Il y a ici une question d'échelle des valeurs. Satan disait à Dieu au sujet de Job, dans le livre de Job. Il disait à Dieu, « Mais est-ce de façon désintéressée que Job s'attache à toi ? Ne l'as-tu pas entouré de toutes sortes de biens ? Ne l'as-tu pas nanti de richesses ? Ose lui ravir ces choses et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Alors Dieu lui a dit de tourmenter Job. On pourrait dire que Dieu a livré Job à Satan. Mais il a dit à Satan, n'aimez pas ta main sur sa vie. Mais qu'est-ce que nous voyons? Job a subi des attaques sur le plan matériel et sur le plan même sanitaire. C'est-à-dire que même son corps a été frappé de maladie. Voyez-vous, malgré cela, Job est resté intègre, attaché à Dieu. Sa femme lui a même dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job ne s'était pas laissé faire. Ça veut dire que pour Satan, la vie c'est lié au bien matériel. Mais pour le Seigneur, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. La vie, ce n'est pas le manger et le boire. Et dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur disait, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Nous avons tout pleinement en lui. Pleinement en lui. La vie, bien sûr, premièrement, et tout ce qui va avec. Nous ne possédons rien en quoi nous pourrions nous confier, mais nous nous reposons uniquement sur les mérites de sa personne et sur la valeur de sa vie offerte en expiation sur la croix. Auprès de toi est la source de la vie. Le psalmiste continue plus loin. Dans le psaume 87, au verset 7, je cite ce passage, « Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes nos sources sont en toi. » Combien j'apprécie ce verset, c'est un merveilleux verset, comme l'est également le reste des Écritures. Mais voilà, ce verset nous montre que l'origine de toutes nos acquisitions et de nos richesses diverses sont en Dieu. Jacques confirme cela dans Jacques au chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Lorsqu'on a bien compris où se situe la source de nos ressources, on chante et on danse. Il y a ici une relation de cause à effet. La source de nos ressources est en Dieu. Par conséquent, l'on chante et l'on danse pour lui. Et pour lui seul, hein. On devient ses adorateurs, ses vrais adorateurs, en parfaite connaissance de cause. La question qu'on doit se poser ici est de savoir pour qui chantons-nous et pour qui dansons-nous? À partir de là, vous saurez si vous êtes un vrai adorateur ou un idolâtre. Il y en a qui chantent pour le monde, c'est-à-dire pour des créatures telles que la femme, l'argent, les tenants du pouvoir et que sais-je encore. Mais quel désespoir dans la vie de ces gens! Un jour, la beauté ou l'argent ou le succès ou la richesse s'arrêtent et du coup, tout est fini, fini! Mais le seul chant qui reste et qui doit rester, c'est celui de Jésus-Christ. Car si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Romains chapitre 8, au verset 32. Comment pouvons-nous arriver à comprendre cette grande vérité, c'est-à-dire cette vérité selon laquelle auprès de Dieu est la source de la vie? Toutes nos sources sont en lui. Eh bien, la deuxième partie du verset 10 de ce psaume 36, déjà lu, nous y conduit, et je lis cette deuxième partie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dans les semaines passées, souvenez-vous, nous nous sommes longuement occupés du thème de la lumière. Vous voyez que qu'on peut pas en épuiser la pensée, on peut pas vider toute la substance de ce thème de la lumière. Mais ici, quand il nous est dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière », remarquez, il nous est parlé ici des deux lumières, deux sortes de lumières. La première lumière est quelque chose de spécial, « Par ta lumière ». La deuxième lumière, dont il est dit que nous voyons la lumière, c'est quelque chose plutôt d'ordre général. La lumière de Dieu, c'est la réalité d'une chose, les choses dans leur réalité objective. Tandis que la première lumière évoque ici la pensée de la révélation divine, le fait pour Dieu de se faire connaître à nous ou de nous faire connaître des choses cachées que nous ne pouvons pas connaître autrement que d'une manière surnaturelle. Donc, ta lumière ici, c'est en fait l'intervention divine, directe dans nos vies. Dieu est le vivant qui se révèle. La Bible est la révélation de Dieu, de ses pensées, de ses voies, avec comme objet central Jésus-Christ. Personne ne peut connaître fondamentalement Dieu et Jésus-Christ en dehors de cette révélation écrite. Connaître les Écritures, c'est bien, mais il nous faut absolument la lumière de cette révélation écrite. Nous avons grandement besoin de cette lumière pour que notre esprit en saisisse les réalités profondes. Personne ne peut décrire, par exemple, au moindre cœur humain, quel est l'amour de Christ avant que Jésus-Christ lui-même vienne parler à l'intérieur de ce cœur. Toutes les descriptions restent plates et fades si le Saint-Esprit ne les remplit pas de vie et de puissance. L'âme ne voit pas et ne connaît pas celui qui s'appelle dans l'Écriture Emmanuel, celui qui s'appelle le lit de vallée, celui qui s'appelle le Narcisse de Saron, avant qu'il ne se révèle à ses yeux. Cela est attesté par plusieurs faits dans la Bible. Prenons l'exemple de Manoah, le père de Samson, dans Juges au chapitre 13. Manoah voulait connaître précisément l'homme qui parlait avec lui et qui lui annonçait la naissance de son prochain fils, Samson. Mais il ne pouvait pas y arriver sans la révélation. Voici ce que disent les versets 17 et 18 du chapitre 13 du livre de Juges. Au verset 17. « Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ?» afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » Le verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? C'est un mystère, ou il est mystérieux. » D'autres versions traduisent de la manière suivante, « C'est une merveille, ou il est merveilleux. » Il s'agit du nom de cet ange de l'Éternel. C'est un mystère, c'est une merveille. C'est merveilleux, c'est mystérieux. Et le verset 19 jusqu'au verset 21 rapporte ceci. Je lis. Verset 19. Manoah prit le chevreau et l'offrande. Il fit un holocauste à l'Éternel sur le rocher. Il s'est produit un fait mystérieux pendant que Manoah et sa femme regardaient. Verset 20. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Le verset 21. L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Connaître Dieu et les réalités qui sont en lui relèvent d'un mystère. Un mystère, en langage simple, c'est un secret. Et quand nous connaissons ce secret de Dieu, quand nous y entrons, au fond, on y découvre une merveille, c'est-à-dire un trésor, des choses précieuses et extraordinaires. J'ouvre ici une parenthèse et je vais la refermer tout de suite. C'est que dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de sept mystères. Le connaissez-vous? Il y a, premièrement, le mystère de Dieu. Deux, il y a le mystère de Christ. Alors, très brièvement, Le mystère de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le mystère de Christ, c'est qui ou c'est quoi? C'est l'Église. Troisièmement, il y a le mystère du royaume de Dieu. Quatrièmement, le mystère de la piété. Cinquièmement, le mystère de l'iniquité, dont il nous est parlé dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Sixièmement, le mystère de l'endurcissement partiel d'Israël, dont il est parlé aussi dans Romains au chapitre 11. Et septièmement, enfin, il y a le mystère de l'enlèvement de chrétiens au ciel. Et ça, c'est un mystère. Et c'est même l'objet de toute notre espérance. Car bientôt, Christ vient nous ravir dans les airs. Voilà, il y a ces sept mystères. Il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Mais là, c'est les sept mystères clés. Voilà qui amène l'apôtre Paul à dire dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, du verset 7 au verset 12, les paroles suivantes. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun prince de ce siècle ne l'a connue. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais c'est comme il est écrit, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, et c'est qu'il n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Verset 10. À nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Qui parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous sachions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Oui, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin de savoir des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si vous voulez voir le soleil, que faites-vous? Prenons cet exemple. Que faites-vous alors? Assemblerez-vous tous les objets ordinaires d'éclairage pour chercher à contempler ce puissant astre brillant du jour de cette manière? Non. L'homme sage sait que le soleil doit se montrer lui-même et que c'est par son seul éclat que nous pouvons le voir. Il en est de même pour Dieu et pour Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur Jésus dit à Pierre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Quand il a posé la question à ses disciples de savoir qui il disait de lui, eh bien les uns disaient, en dehors de ses disciples bien sûr, que c'était Jean-Baptiste, d'autres, Élie, ou Jérémie, ou l'un des prophètes. Alors il fallait que les disciples, à leur tour, disent ce qu'ils croyaient de Jésus-Christ. Pierre répondit disant, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le Seigneur lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Mais mon Père qui est dans les cieux. Ça, on peut le voir dans Matthieu 16, au verset 17. Chers amis auditeurs, purifiez la chair et le sang par tous les processus d'éducation et d'instruction dont vous disposez. Élevez les facultés mentales par la philosophie et parfois même par la théologie. La théologie au sens académique du mot, hein. Jusqu'au degré le plus exalté de la puissance intellectuelle. Eh bien, aucune de ces choses, pourtant, mes chers amis, ne parvient à révéler Christ. Aucune de ces choses. Pour cela, l'Esprit de Dieu doit venir avec puissance et recouvrir l'homme de sa lumière. Oui, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors, dans ce lieu mystique très saint, où Dieu se révèle, le Seigneur Jésus se manifeste à l'œil qu'il a sanctifié. Et il le fait d'une manière qu'il n'emploie pas pour les fils aveugles des hommes. Hein. Les grandes multitudes de ce monde myope ne voient rien de merveilles ineffables de la personne de Christ.
Il se tient devant eux sans forme ni beauté, comme une racine qui sort d'une terre desséchée, rejetée par les hommes vains, bien sûr, et méprisée par les orgueilleux. Je crois que pour que nous recevions cette révélation de Dieu, nous avons besoin d'être humbles, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'orgueil est le caractère qui, lorsqu'on pense qu'on ne l'a pas, c'est alors qu'on l'a. Tandis que l'humilité est le caractère qui, lorsqu'on pense qu'on l'a,
c'est alors qu'on ne l'a pas.
Voyez-vous, l'apôtre Pierre dit que la beauté de Jésus-Christ n'apparaît qu'à ceux qui croient. Il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 7. Il est pour vous la pierre angulaire, le rocher de votre salut, votre tout en tout. Pour les incrédules, il est au contraire une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Chers amis auditeurs, as-tu découvert en Jésus-Christ la vraie source de la vie? Le connais-tu comme celui qui est le merveilleux ou l'as-tu jusqu'ici méprisé? Demande-lui de se révéler à toi en cette journée. Recherche dans la prière cette révélation du Seigneur et fais-le en toute humilité. Et cela en vue de la véritable connaissance et de la vie en abondance. Bienheureux ceux à qui le Seigneur Jésus s'est manifeste, car il promet de faire sa demeure en eux. C'est ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Auprès de lui est la source de la vie, et par sa lumière, nous voyons la lumière. L'unique base pour que nous puissions voir la lumière de Dieu sur nous, c'est pas nos sentiments, ce ne sont pas nos opinions, mais c'est simplement le fait de voir ce que Dieu dit, l'opinion de Dieu. Quand nous considérons ce que Dieu dit de nous, ce jour-là, nous voyons la lumière de Dieu sur nous. Et quand cette lumière de Dieu vient à nous, nous aurons beau penser que nous sommes bons, mais en réalité nous sommes mauvais. Nous aurons beau voir dans nos cœurs des vertus, mais ce jour-là, nos vertus deviennent des vices, des péchés terribles. Et on se répand dans la lumière de Dieu. Nous aurons beau apprécier nos belles pensées, nos belles conceptions sur Dieu. Mais le jour où Dieu nous donne sa révélation sur lui-même, c'est alors que nous dirons, « Ô Seigneur, nous n'avons jusqu'ici que vécu dans des ténèbres, les ténèbres les plus noires. » Qu'en toute humilité et dans le désir vraiment de connaître Dieu, nous puissions nous courber devant lui pour rechercher cette vraie connaissance des voies de Dieu, de la personne de Dieu et des pensées de Dieu et de ses pensées sur nous-mêmes pour que nous sortions des opinions des hommes, des opinions que nous nous faisons sur nous-mêmes et que nous puissions être vrais devant Dieu. Qui veut alors se courber dans la prière pour demander cette grâce à Dieu? Nous allons le faire. Seigneur Jésus, tu as pu dire, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. Et tu as dit aussi, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à qui le Fils veut le révéler. Seigneur Jésus, nous venons à toi, la vraie lumière, que tu nous révèles que tu es la source et l'origine de toute richesse, de tout bonheur, de toute espérance, de toute victoire, car toutes nos sources sont en toi. Révèle, ô Seigneur, cette grande vérité à ceux qui se sentent malheureux, à ceux qui se sentent dans la misère, à ceux qui se sentent malades, qui ne savent pas où trouver la guérison. Qu'ils viennent à toi pour trouver auprès de toi la source de la vraie guérison divine. Seigneur, tu connais aussi ceux qui manquent d'intelligence, à l'école, au travail, ceux qui manquent de sagesse. Je te supplie de leur donner, de trouver en toi, par la foi, toutes ces choses, car toutes nos sources sont en toi. Seigneur Jésus, ceux qui sont accablés par le péché, liés par Satan, donne-leur aujourd'hui de trouver auprès de toi la source de la vraie délivrance. Car tu as dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Que tu leur donnes d'être libres aujourd'hui et qu'ils marchent en cette journée dans cette liberté glorieuse d'enfant de Dieu. Nous te demandons ces choses, sachant que tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Amen.
Avez-vous besoin de contact au sujet de cette émission? Eh bien, vous pouvez appeler Danny Wechai, votre serviteur.
Souviens-toi de moi, car en toi j'espère.